Audiolib présente Underground Railroad de Colson Whitehead, lu par Aïssa Maïga.
La dernière nuit qu'elle passa dans le quartier des esclaves, alors même qu'elle avait besoin de rassembler ses forces, elle fut incapable de trouver le sommeil. Les autres femmes de Hobb étaient assoupies à ses côtés dans la soupente. Elle les écouta respirer. Ça, c'est Nag. Ça, c'est Rida, avec son chevrotement rauque toutes les deux minutes. À la même heure le lendemain, elle serait lâchée dans la nuit. Était-ce là ce que sa mère avait ressenti en prenant sa décision? Cora ne gardait d'elle qu'une image lointaine. Ce qu'elle se rappelait le mieux, c'était sa tristesse. Sa mère était déjà une femme de Hobb, avant que Hobb n'existe, avec la même réticence à se mêler aux gens, le même fardeau qui la voûtait en tout temps et la coupait des autres. Cora ne pouvait en rassembler les pièces dans son esprit. Qui était-elle? Où était-elle à présent? Pourquoi l'avait-elle abandonnée? Sans même un baiser spécial pour dire « Plus tard, quand tu te rappelleras ce moment, tu comprendras que je te disais adieu sans que tu le saches. » Pour son dernier jour au champ, elle fourra furieusement la terre comme si elle creusait un tunnel. Au travers, au-delà, c'est là qu'est le salut. Elle dit adieu sans dire adieu. La veille, après le dîner, elle s'était attardée avec Lovey et elles avaient parlé comme elles ne l'avaient plus fait depuis l'anniversaire de Jockey. Cora s'efforça de glisser des mots gentils à son amie. Un cadeau qu'elle pourrait chérir plus tard. Bien sûr que tu as fait ça pour elle. Tu es quelqu'un de bien. Bien sûr que tu plais à Major. Il voit ce que je vois en toi. Cora réserva son dernier repas aux femmes de Hobb. Il était rare qu'elles passent ensemble leur temps libre, mais elle les rassembla, les arracha à leurs préoccupations. Qu'allait-il advenir d'elles? C'étaient des exilés, mais Hobb leur offrait une certaine protection une fois installés. En exhibant leur étrangeté, tel un esclave qui geint et fait l'enfant pour éviter le fouet, elles échappaient aux intrigues du village. Les murs de Hobb se faisaient forteresse, à l'abri des vendettas et des complots. Car les Blancs ne sont pas les seuls à pouvoir vous dévorer. Elle laissa ses affaires en pile devant la porte. Un peigne, un fragment de miroir argenté qu'Adjari avait chapardé jadis, le tas de cailloux bleus que Nag appelait ses pierres indiennes, son cadeau d'adieu. Elle prit sa hachette. Elle prit de l'amadou et une pierre à silex. Et comme sa mère, elle déterra ses ignames. Demain soir, une autre femme se sera emparée du lopin, pensa-t-elle en remuant la terre. Ajoutera une clôture pour les poules, une niche, ou peut-être que ça restera un jardin. Un point d'ancrage dans les eaux traîtresses de la plantation pour ne pas se laisser emporter. Jusqu'à ce qu'elle choisisse de céder. Ils se retrouvèrent près du coton dès que le village se fut tu. César regarda d'un œil interrogateur son sac gonflé d'ignames, mais il ne souffla mot. Ils s'enfoncèrent au cœur des plants, l'estomac tellement noué qu'ils en oublièrent de courir sur la première moitié du chemin. Leur vitesse les grisa. L'impossibilité de tout ça. La terreur les appelait pour qu'ils fassent demi-tour, même si personne d'autre ne se faisait entendre à la ronde. Ils avaient 6 heures avant qu'on découvre leur absence, et encore 1 ou 2 avant que les milices atteignent l'endroit où ils se trouvaient à présent. Mais la terreur était déjà à leur trousse, comme chaque jour à la plantation, et elle avançait à leur rythme.